Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble.
With Dabs, Squad Gauche Squad, sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, nature au Percy. Life de Rosemont, Arthur au Garcy. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat, j'en pense mal. On va passer pro, boxer et podcast. Je t'en sais pas parler, mais c'est un podcast.
And the new
en direct du hors-série numéro 3, on est à une semaine du combat de Michael Zuski, son plus grand défi en carrière contre Ejidijus Kavialoska, dans une bulle à Las Vegas, le hors-série numéro 3. On reçoit moi-même qui sera interrogé par Vincent Tremblay. Vous allez voir, on a inversé les rôles et je me mélange à plus de 12 reprises. On reçoit Vincent Morin qui, je le remercie d'avance parce que j'avais oublié de peser sur record. On avait 17 minutes de fait, on a recommencé. Je pense qu'on aurait pu parler pendant des heures. Mon idée, c'était de recevoir 4 personnes à 8 minutes chaque. Je pense que j'ai rien fait en dessous de 17, j'ai beaucoup trop de jasette. Je suis le nouveau, je suis Jeannette Bertrand en roux et chauve. Et on reçoit un classique... Jean-Philippe Ouimette. Jean-Philippe Ouimette, je le reçois tout le temps parce que ben, je m'entends bien avec. Fait que de ce pas, Laurent s'écoute parler. Hors série numéro 3, Michael Zuski et Ejidijus Kavialoska, samedi le 12 septembre prochain, 21h30, gratis au Réseau des Sports.
Le hors série numéro 3, et Jean-Philippe, bienvenue. Et pourquoi je t'invite? T'as un fan, là, t'as un gars qui est président de ton fan club. À chaque fois qu'il me voit, il me dit « Les meilleurs moments dans ma vie, c'est quand je t'entends parler avec Jean-Philippe. » Je sais pas si tu le connais, c'est sûr. Paulin Gaudreau, ce gars-là.
Ton fan, oui.
Numéro 1.
Je l'adore, Paulin. Je salue d'ailleurs.
Il dit, quand tu parles à Jean-Philippe, c'est comme du petit bonbon dans mon oreille. Pourquoi t'es ici, hors série numéro 3? Michael Zuski, c'est gros, va affronter Ejis Kavialoska. Kavialoska est 16e sur BoxRec. Mais tu vas être d'accord avec moi que c'est un des gars les plus dangereux dans la division à ne pas détenir une ceinture. Le combat le plus important de la carrière du Lys, le 12 septembre prochain au MGM Grand dans une bulle. Raconte-moi... Comment tu vois ce combat-là? Comment tu vois les enjeux avant qu'on tombe dans les grandes analyses?
Ben, c'est un gros combat. Écoute, Zuski, ça fait tellement longtemps qu'il attend ce combat-là que ça rajoute, on dirait, au combat, à l'événement. Fait que c'est ça. Ça passe ou ça casse. Ça va être de quoi être gros. Puis j'ai hâte pour Zuski, puis ça va me donner tout un combat, là.
Es-tu d'accord avec moi que c'est quand même impressionnant? Tu sais, des fois, on entend des boxeurs dire « Ah, je suis prêt pour n'importe qui », puis finalement, « Bon, c'est pas toujours vrai ». Là, il y a eu l'histoire, tu sais, tu vas t'en rappeler, là, parce que je te connais, tu surveilles toujours ces petites histoires-là qui a du grenouillage. Tu sais, quand Zuski a refusé Sadridine Akhmedov, j'ai été un des premiers moi, qui a pogné les nerfs. C'est pas son poids. Pourquoi t'es affronté une recrue deux catégories de poids plus haut pour un chèque de 15 000? Tu sais, ça tenait pas debout. Puis Zuski avait eu une mauvaise presse dans le Journal de Montréal. Mais l'avenir lui a donné raison. Lui, il a dit, je vais t'affronter n'importe qui. Il faut que ça fasse du sens. Il faut que ce soit dans ma division. Il faut que ça me mène à un championnat du monde. Là, il pogne le gars qui vient de... quand même bien paraître contre Terence Crawford. Je ne sais pas si tu as vu la droite, Crawford tombe, l'arbitre, ça ne tentait pas. Mais Kavialoska, c'est gros puis c'est immense comme défi.
Il a fait tout un combat contre Crawford. Écoute, à part peut-être la fin où il avait un peu épuisé, mais avant ça, il a donné toute une run à Crawford, qui est dans le top 3 pound for pound. C'est un cogneur, un gars hargneux, puis c'est vraiment quelqu'un de, comme tu as dit tantôt, peut-être le meilleur boxeur de la catégorie à pas avoir de ceinture. Puis pour Pozuski, il a vraiment bien fait d'attendre. Écoute, je pense que ce combat-là est beaucoup plus payant que Akhmedov. Puis ça va y avoir donné raison. Écoute, Top Rank, son retour sur Top Rank, ça fait plusieurs années qu'il boxe plus sur ce réseau-là. Mais je suis content pour lui. Sa patience, finalement, qui est récompensée. Parce qu'on se, tu sais, il y a un an ou deux, on se demandait quand est-ce qu'elle allait venir, ce gros combat-là. On se demandait si elle allait venir tout court. Puis là, la patience aura apporté de bons résultats. Mais en tout cas, une chance de bons résultats.
Juste rajouter sur ce que tu dis, si tu te rappelles un peu dans le Nouvelliste, des fois, on dirait que dans le journal de région, les langues se délient un peu plus. Puis même Zuski l'avait dit, là, tu vas t'en rappeler quand je vais te le dire, il avait dit, ben, je suis pas vraiment au niveau de me battre au casino, tu sais. Il avait, ça, il tentait plus vraiment le casino, il aurait aimé, tu sais, toujours au Centre Vidéotron ou au Centre Bell. Il y a eu ce petit moment-là où il a parlé, mais il est resté loyal à Yvon Michel. Ben, visiblement, ça a payé. C'est une grande finale sur Top Rank. Zuski, tu sais, c'est cliché, là, mais est-ce que t'es impressionné aussi par l'homme qui est un peu, tu sais, il parle bien, il a l'air d'un effectivement loyal. Moi, je le vois déjà, l'après-carrière dans les médias. Tu sais, moi, je pense que c'est le nouveau Jean-Paul Chartrand.
Non, c'est vraiment quelqu'un de très, très intelligent, là. Pour avoir parlé avec plusieurs fois, c'est quelqu'un qui, tu sais, qui est père de famille, qui est à son affaire. J'ai toujours aimé, tu sais, parler les podcasts que tu as fait avec. On voyait que, tu sais, c'était quelqu'un qui était articulé. Puis oui, je le verrai dans les médias après. C'est quelqu'un aussi qui a une bonne analyse de boxe, qui écoute, il écoute beaucoup, beaucoup de combats, puis il connaît tous les boxeurs, puis il est capable d'avoir un point de vue objectif, puis toujours le fun d'écouter Zuski.
Là, j'ai fait exprès, hein? Je me suis assuré que tu le vantes un peu, mais là, on va tomber dans le croustillant. Là. Est-ce que tu le vois être capable de reproduire? Parce que dans le fond, c'est facile, on l'a vu avec Robinson puis Crawford, comment faire pour déranger Kavialoska. Mais après ça, aller le faire sur le ring, c'est un peu plus compliqué. Kavialoska, il a une grosse droite, il est précis. Est-ce que tu vois Zuski être capable de reproduire à une certaine échelle ce que Terence Crawford a fait et vaincre Aegis Kavialoska?
Ben non. En fait, là, bien franchement, non. Moi, je vois... je le souhaite pas, mais ce que je vois, c'est un peu un copier-coller de ce qu'on a vu au Japon entre Butler et Murata. Écoute, je vois pas... Je vois un chaos... Parce que Zuski m'a fait un peu douter de sa mâchoire dans les derniers, dans les deux dernières années. T'as les deux fois au tapis contre des boxeurs, tu sais, qui n'avaient pas une force de frappe incroyable. Écoute, ouais, je pense que la force de frappe, surtout en début de combat, là, tu sais, je vois, s'il peut tirer le combat, je vois qu'il aurait peut-être plus de chances de se rendre à la décision. Mais je le vois pas être capable de tirer le combat. Moi, je vois un KO au troisième ou quatrième round contre Zuski.
C'est le bonheur, ça, Jean-Philippe. Je vais rappeler ce que tu racontes. C'est au casino, il avait affronté José de Jésus Macias, le type qui a battu Lafrenière. Zuski était monté à 150 livres pour pas trop s'énerver avec la coupe de poids. Puis je pense qu'il s'était fait casser en mâchoire. Il a visité le tapis, il s'est relevé, il y avait du sang partout. Mais pour le public, c'était bon, maudit. Hein. C'était gratuit sur Facebook. Il avait donné tout un show. Puis là, je pense que c'est contaminant Lopez. C'est vrai qu'il avait été frappé solidement au sixième round. Puis, mais je suis un peu d'accord avec toi. Il ne va pas falloir que ça arrive. Mais moi, ma prédiction, je te dirais que j'ai tendance à être d'accord avec toi. Je pense que ça va s'étirer un peu plus. Mais tu sais, des fois, là, puis j'ai envie d'être positif. J'ai envie de rêver présentement. Des fois, il arrive le plus grand combat de ta vie, t'as comme un surplus de motivation, puis là, tu sors une grande performance. Tu sais, le niveau que t'avais au casino est plus le même rendu au MGM Grand. T'as l'air d'un nouvel athlète. Moi, j'espère que c'est un peu ça qui va arriver, qui va être transporté, qu'on ait le droit à un grand combat, mais je pense que Rendu après 8, ça va être difficile parce que le caviar Losca, ce que j'ai remarqué, il est capable de traîner sa force de frappe pendant 12 rondes. Puis j'ai peur qu'à un moment ou un autre dans le combat, la droite passe.
Ouais. J'ai peur que la droite passe. Puis je me demande aussi comment que Zuski va réussir à gagner des rounds en début de combat. Même Terence Crawford n'était pas capable de gagner. La première moitié de combat était égale. Fait que je vois mal comment Zuski pourrait faire mieux que Crawford. Là. Mais bon, il s'est permis de rêver. Puis, Zuski a raté sa chance. C'était sa seule défaite avant. Il a raté un peu sa chance du gros combat. Mais là, c'est sa deuxième chance. Puis, il ne peut pas la rater, celle-là. Là. Écoute, une défaite par KO, mettons, là, dans les 6 premiers rounds, ça va faire mal à Zuski. Fait que c'est le temps de performer à hauteur de ton talent. Là, c'est là ou jamais. Là.
Est-ce que c'est le Québécois qui a le plus gros défi à date en 2020? Et j'inclus Elider contre Joe Smith, que dans le fond, Elider était favori avant le combat.
Oui, je pense que oui. Là. Mais tu sais, il n'y a pas eu grand taux de combat. Là.
Non, c'est ça. Mais
moi, ça fait penser un peu, peut-être pas autant, là, mais tu sais, un peu Butler Murata. Là. Je vois. C'est un monstre pareil, là.
Ben, il est impressionnant, tu sais, juste lancer des chiffres comme ça. Il y a 21 victoires, 17 par KO. Puis, c'est dur à vérifier, mais Caviar Losca se vante d'avoir 400 victoires chez les amateurs. Fait que ouais. Ça, par exemple, je suis pas capable de le trouver sur BoxRec. Ils ont juste les compétitions internationales, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Puis, je vais même te lancer une autre information. En 2015, il était prospect de l'année par ESPN. C'est pas grand-chose, mais...
La médaille olympique.
Ouais, mais t'as raison, Zuski, c'est le côté B de l'équation, c'est le boxeur négligé, mais moi, je ne peux pas faire autrement que lever mon chapeau à un gars qui dit « Je suis là pour devenir champion du monde, je vais affronter meilleur, ça passe ou ça casse, puis si ça marche pas, je vais construire des maisons, je vais être très heureux. »
Fait que exactement, là. C'est tant que... Je lève mon chapeau, puis il peut me faire mentir, puis... Je souhaite tellement de me faire mentir, là. Écoute, je vais le supporter. Tu es rendu là, les prédictions le soir du combat, ça veut plus rien dire. S'il peut réussir à poser la surprise, je vais être le plus heureux, là, tu sais. Il mérite assez, le Zuski, là. Fait que j'y souhaite.
Hey, tu connais mon concept. À chaque fois que je reçois quelqu'un dans un hors-série, je glisse une autre question sur le côté à la fin. Qu'est-ce qui t'excite le plus en boxe d'ici la fin de l'année 2020?
Bonne question.
Alors, j'ai des choix de réponse. Est-ce que c'est un peu tout ce qui bouillonne au local? Là, on a vu, il parle de présenter un grand gala à Shawinigan. Est-ce que c'est plus l'international, un Dubois contre Joyce? Est-ce que c'est Garcia contre Garcia contre Errol Spence?
C'est
gros parce que Spence l'est fraisé dans sa Ferrari puis il revient direct contre Garcia.
Ben c'est sûr que Garcia Spence pour une vie internationale. Ça va être du combat, là, ça. C'est sûr que c'est, pour les internationaux, c'est ça qui m'allume le plus. Plus que Daniel Dubois contre Joe Joyce. C'est sûr que c'est intéressant aussi, là, mais j'ai plus hâte Garcia puis Spence. Puis, le petit tournoi de 140 livres, là, qui peut m'intéresser aussi avec Germain, Ulysse, Théroux. Puis, Germain, Théroux, Ulysse.
Justement, on va finir avec ça. Je m'étais promis de ne pas trop dépasser le temps, mais moi, je veux savoir des quatre noms qu'on vient de nommer. Il y en a trois qu'on connaît vraiment, OK? Moi, je veux savoir si, comme moi, tu penses que tes roues pourraient déranger un peu. Tu sais, Stéphane Larouche est en arrière, il va le craquer parce qu'on sait Larouche avec Eye of the Tiger. Tes roues. Tu sais, un petit 2 ans passé aux côtés de Larouche, là, au moins tu t'améliores comme boxeur quand même.
Oui. Mais es-tu sûr que Larouche est encore avec Théroux?
Oui. C'est une des raisons pourquoi Théroux avait quitté Eye of the Tiger. Il a lancé un genre d'ultimatum, puis lui a dit non, je reste avec Stéphane.
Oui. Écoute, je pense qu'il peut causer des surprises. Écoute, c'est les quatre sont pas mal du même calibre. C'est sûr que Théroux, peut-être un petit peu. Part pas favori sur les trois autres, mais justement, il n'y a pas de pression, puis il a faim, fait que oui, il pourrait causer la surprise. Écoute, on ne sait jamais, là. Je ne mettrais pas favori, mais tu sais, c'est pas comme si tu étais éliminé de la compétition tout de suite, là. J'aurais aimé voir Ayaz Hussein dans ce tournoi-là. Puis lui, je pense qu'il aurait causé des surprises.
Il a pris une autre décision. Mais imagine Jean-Philippe en terminant. Imagine le tirage au sort. Ils font un boulier, ils font venir les gens de l'Auto-Québec pour vérifier. Puis là, on est tranquille devant notre écran un vendredi à 18h45. Puis là, ils sortent les deux premières boules, Ulysse contre Germain. Ça va partir, là. Le J-Time Click, la Ulysse Nation. Toi, on sait même pas t'es assis de quel bord. Moi, on sait un peu plus. François, comment il s'appelle? François Bouchard à Québec. Sylvain Pelletier sort de sa retraite sur Facebook. On va perdre le contrôle de Facebook, là.
Non, c'est sûr que ça serait assez malade, là. Écoute, le combat, ça serait là. Hein? Les Québécois déchirés.
Tu vas être...
Moi, c'est sûr que je vais être... Je vais être avec Ulysse, là. J'ai pas le choix. C'est Ulysse à la vie à la mort. Je suis Ulysse Nation, mais... Écoute, que le meilleur gagne, là.
Non, mais c'est ça fait rêver, puis c'est ce qu'on veut depuis longtemps. Merci d'avoir été là. On retient ta prédiction. On va dire Cavialosco 4e, mais...
Ouais.
Où ton cœur se loge. Merci d'avoir été là. Puis on se revoit pour un autre hors-série. Moi, j'aime ça faire ça. Fait qu'il va en avoir plein. Puis tu es toujours invité.
Parfait.
Au revoir.
Au revoir.
Hors-série numéro 3. Laurent s'écoute parler. Ici Laurent Poulin avec notre spécialiste boxe cette semaine, Vincent Tremblay. Salut Vincent.
Merci Vincent. Merci Laurent. Je suis vraiment très honoré d'être présent sur le podcast. Laurent s'écoute parler. Je réalise un rêve.
Parle-moi justement de. C'est un gros combat. Mikhaïl Zouski qui s'en va affronter le Lituanien Kavilauskas. Kavilauskas. Je ne sais pas si je le prononce correctement.
Bien prononcé, Laurent.
Mais c'est un combat. Sûrement le plus difficile qu'aura livré Mikhaïl Zouski dans les prochaines semaines.
Hey Laurent, je ne sais pas si c'est le plus difficile parce qu'on se rappelle que contre Ponomarev, ça n'a pas été de la tarte. Mais Kavialoska, premièrement, là, je veux, Laurent, te parler de comment je l'ai découvert Kavialoska. Il avait été prospect de l'année sur ESPN en 2015. Puis tu le sais, moi... Depuis que je suis à Val d'Or, là, je prends vraiment le temps d'analyser beaucoup les fiches. J'aime ça quand il y a des comparables. Puis lui, Kavialoska, sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Il a battu Jaime Herrera, qu'on a connu contre Steven Butler.
Ouais.
En 4 minutes. Il l'a envoyé 2 fois au tapis. Il y a un autre combat que Laurent parle souvent. Ben, ça, c'est-à-dire toi. Quand il a affronté Pablo Munguia, je sais pas si tu te rappelles de Munguia, il était venu au casino affronter Flavius Bia. La blonde à Bia, qui était belle, là, c'est un moyen temps, était tombée malade. Il était embarqué d'un avion en Roumanie. C'était à l'époque où Frank Cotroni surveillait son poids. Puis là, Cotroni était sorti
à 40... C'est dur de dire à l'époque.
Mais il a engraissé un peu, j'ai vu récemment.
Mais je pense qu'il m'a dit que, petite blague à part, là, mais... Il m'a écrit pour me dire, j'ai commenté son truc, puis il m'a écrit en privé pour me dire qu'il y avait des points au cœur parce qu'il a trop pris du poids rapidement. Il dit non, c'est pas vrai que je vais avoir des problèmes. Là, je pense qu'il a redescendu, là. Je pense qu'il est revenu normal.
Ouais, mais il était rendu quasiment aussi gras que nous deux, là.
Ça, ouais, j'ai dit continue comme ça, puis on va avoir un combat dans pas trop longtemps.
Pablo Munguia, là, lui, il était venu affronter. Cotroni, hein, ça avait été une guerre. Tout le monde capotait au casino. Le monde disait « Je croirais d'une taverne tellement que c'était un bon combat. » Ça avait l'air un peu d'un combat de taverne. Le petit Mexicain, il lançait des grosses droites. Mais Kavialoska, il l'a débattu en 2 rondes. Fait que là, je me suis rendu compte qu'on avait un gars différent sous la main. Il a affronté Prentiss Brewer, qui lui, c'était un prospect qui avait de l'allure. Ça a été son premier gros combat. Il l'a sorti en 2 rondes, Vincent. Laurent, les claques, ça revolait. Puis, il a battu Ramzes Agaton. Il a battu plein de monde qu'on connaît, mais sa première grosse victoire, c'est contre le Russe Denis XB. Ça, c'est, il avait mis prospect contre prospect. Là, je me suis rendu compte qu'on avait un gars différent. Mais en gros, Kavialoska, là, c'est un boxeur. Ben, il est bon. T'sais, défensivement, il est très compact. Il y a une affaire qui fait différemment. Le bon Dieu, il a donné une enclume dans la main droite. C'est qu'à tout moment, il peut fermer les livres. C'est que jamais Zuski va avoir le luxe de faire la moindre erreur. Tu peux pas faire d'erreur contre lui. On l'a vu, même Terence Crawford s'est ramassé sur le derrière, puis là, l'arbitre, il a dit « Ah, il a glissé sur une pancarte », mais ça, c'est le luxe d'être un top 5 livre pour livre. On dirait que tu as droit à une glissade par pancarte dans un grand combat.
Il y en a des pancartes, on le sait. Ça va être, tu sais, on disait que ça allait être difficile comme combat, puis Ponomarev non plus, ça avait pas été facile, ce combat-là, mais je sais pas, as-tu l'impression que Zuski a les outils pour battre Kavieloska?
C'est une bonne question. Tu sais, quand tu écoutes une émission de rénovation, là tu te dis, gars, il rénove bien, mais ça, c'est Terence Crawford. Il a tout montré, le plan de match, puis il a tout montré quel outil utiliser, quel plan de match faire, mais ben, Laurent, n'est pas Terence Crawford qui veut, là. Est-ce que Michael Zuski va être capable de copier-coller ce que Crawford et Sugary Robinson ont fait? Puis oublie pas, je viens de te nommer deux gauchers. Avec Zuski, on revient avec le boxeur droitier. Ça va être, tu sais, le plan de match, il est simple, là. C'est rester à distance, pas mélanger coup pour coup, puis essayer de le punir à chaque fois qu'il veut rentrer à l'intérieur, parce que c'est pas là que tu veux le voir. Tu veux le voir à distance. À distance, Zuski a ses chances. S'il commence à échanger coup pour coup, oubliez ça, c'est terminé. Kavieloska, je vous le dis, un enclume d'un bord puis un marteau de l'autre. Ça, c'est quand même compliqué quand tu affrontes ce type de boxeur. Mais Marc Ramsey a déjà dit, la puissance n'est pas un plan de match.
Qu'est-ce que ça voudra dire, une défaite?
Ouais,
on recule?
Ça, c'est une bonne question. Okay? Quand tu dis, là, ça passe ou ça casse, ou tu sais, une victoire, tu rêves de championnat du monde, tu rêves de Las Vegas, de combat millionnaire, puis une défaite, tu retournes au casino de Montréal avec un banc sur trois, puis il faut tout que tu te reconstruises. Alors, regarde, je vais donner un exemple, même s'il est plus jeune, Steven Butler perdu au Japon. Il était sorti de tous les classements cette semaine de septembre. Ça va vraiment être, tout est à recommencer. Est-ce qu'un gars comme Zuski à 31 ans va vouloir tout recommencer? Et oublie pas, Vincent, tout est dans la façon. Si, et ça, on n'est pas rendu là, mais s'il perd une décision excessivement serrée, il s'est battu comme un chien, il va revenir, là, il va devenir incomparable, il va pouvoir surprendre un prospect. L'idée, c'est de ne pas se faire arrêter de bonheur. Et c'est malheureusement la prédiction de Jean-Philippe. Il a dit que ça allait finir au quatrième, puis je voyais, il se sentait mal de le dire, mais ça, c'est un autre dossier.
Ça sera à suivre, là. J'ai l'impression que Zuski, c'est, comme tu dis, là, ça passe ou ça casse, puis il n'aura pas le choix, là, de sortir une grosse performance s'il veut... S'il veut revenir, sinon, comme tu dis, tu sais.
Mais tu sais, Laurent,
t'as. Même chose avec Ulysse, là, tu sais, a connu la défaite à son dernier combat. Est-ce que, tu sais, lui aussi, c'est de refaire les sacrifices, puis de revenir au top, là?
Voilà une bonne comparaison. Ulysse a perdu son dernier combat. Regarde, maintenant, il est dans un tournoi avec d'autres Québécois. Puis c'est en plein ce qu'il voulait pas faire. Il l'a même dit, moi j'ai une revanche contre Barroso, ça traîne, là. On peut sortir les extraits à radio. J'ai une revanche contre Barroso, je vois pas pourquoi je me battrais localement. Finalement, il a été comme contraint à dire oui avec le coronavirus. Okay. On peut penser que Zuski, mais ce serait un peu ça aussi. Mais je veux dire une chose, Laurent, ça c'est toi. Tu as fait une entrevue incroyable avec Michael Zuski. Tu sais, les bonnes questions au bon moment, là, j'ai adoré. Mais Zuski, il faut lui donner du crédit. Il a fait exactement ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il dit, je veux affronter les meilleurs pour avoir une chance en championnat du monde. Puis, tu sais, il avait interrompu l'intervieweur ce jour-là parce qu'il disait, arrête de me parler d'argent. Tu sais, je me rappelle, là, tu disais, Sean Porter, 1 million, Keith Thurman, 1 million, là, moi, tu garochais des chiffres, puis à un moment donné, il a dit, Zuski a dit, non, moi, ce qui m'intéresse, là, une pièce, je vais en championnat du monde, puis je veux réécrire l'histoire, puis je veux mener ma boxe au bout, tu sais. il a vraiment été cohérent. Il a refusé le combat contre Akhmedov, qui faisait pas de sens, une catégorie de poids plus haut contre un gars de 21 ans, 15 000 $ dans un, à huis clos, on sait pas où au Québec. Il obtient ESPN, grande finale, contre le gars qui vient d'affronter Terence Crawford. Top Rank est derrière, peut surprendre le monde entier. Il était très cohérent avec ce qu'il a dit dans les dernières années, puis ça, faut lui donner A+ pour la cohérence et le courage.
Genre de... Est-ce que Kavil Oscar est avec Top Rank?
Ouais, il est avec Top Rank et puis je donne.
Qui va avoir le couteau entre les dents?
Je vais te donner, ouais, il va avoir le couteau entre les dents un peu. Je vais te donner une anecdote. Il est entraîné par le frère de Mickey Garcia, Robert Garcia. Puis Robert Garcia, il a travaillé avec une longue lignée de boxeurs. Puis il dit jamais il a vu de la puissance comme dans Kavial Oscar quand il fait une mitaine. Puis tu sais, c'est un gars qui a mis les gants à peu près avec tout le monde, là, les frères puis le père Garcia, tu sais, ils sont impliqués dans la boxe depuis le berceau. Fait que c'est quand même un gros statement.
Ouais, mais la puissance, tu l'as dit, ça peut pas faire partie d'un plan de match.
C'est un outil, c'est pas un plan de match. Et Marc Ramsey qui avait dit ça à propos de... Je pense que c'était à propos de Golovkin.
On peut reprendre nos chapeaux, Laurent. Il y a plusieurs sujets. Je sais pas si tu veux faire une coupure
ou... Quand je fais le hors-série, là, j'ai toujours une façon de faire, une routine. Je pose une question.
On y va.
Différente. Là, je vais te la poser. Je vais reprendre mon chapeau. De toute façon, je me mêle dans mes jeux puis mes tissus depuis tantôt. Pendant que t'es là, cette semaine, ils ont annoncé Stan sur Max. C'était un secret pas super bien gardé, mais c'était officialisé. Sur Max, Simon Kane, sais-tu ce qu'on appelle? Parce que moi, je le connais un peu sur Max. J'ai envie de te dire que ça ressemble à un tune-up fight classique, là, un combat de remise en forme, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur Mac, parce qu'on sait qu'il va avoir une grosse presse, là. TVA embarque toujours en fou sur les combats de Simon Kane, fait qu'on va en entendre parler de ce sur Mac-là.
Hey, je te dirais que son meilleur atout, là, c'est qu'il paraît bien à l'extérieur du ring.
Comme toi. Vois,
il s'habille propre, un peu. Tu sais, Luchan Bouté, là, toujours bien habillé. Ben, ça, c'est Stan sur Mac. C'est son atout numéro un, je te dirais. Là, il est pas... Tu sais, on parlait, ça devait, c'était pratiquement signé contre Braidwood, de Sir Mac Braidwood à Edmonton, puis Braidwood l'aurait passé là, facilement. Un gars qui a eu de la misère contre Christian Larondo. Oui, il se déplace bien dans le ring, mais...
Je pense qu'il habite au Canada, Riz.
Ouais, mais tu sais...
Une couple de fois.
Ouais, on l'a vu contre... C'est pas contre Makhmoudov. On l'a vu contre Braidwood après. On l'a vu contre Makhmoudov. Puis non, tu sais, c'est pas... Ça sera pas facile pour Sir Mac. Vraiment pas. Puis King, il devrait passer ça là, facile. S'il est sérieux à l'entraînement, il passe ça facilement. Même pas de problème.
As-tu l'impression que ça va être mal reçu du public comme adversaire? Ou
puis en... Alors, il n'y a aucune idée c'est qui le public.
Non, mais si le combat est trop facile, on va encore dire, tu sais, il y a des classiques, là, les gens utilisent le mot...
Ah, mais c'est ça, ben...
Les gens utilisent le mot jambon à tout azimut, là, mais...
C'est bon. Check ça, OK? Deux scénarios possibles. Simon Kane démolit Sir Mac. Ah, c'est un jambon. Simon Kane se fait battre par Sir Mac. Ah, Simon Kane est pourri.
Comment on appelle ça en politique? Un catch 22, là, tu peux pas gagner, t'es pris, t'es coincé des deux côtés.
Ah, ça, tu sais, puis non, j'ai la difficulté avec ça un peu, la vision des gens, mais faut se faire, hein.
Ah, les gens sont exigeants. Vincent, tu me rappelles un peu avec ton histoire de surmac, comme quoi qui est bien habillé. Une fois, j'étais à mes débuts au 91-9, dans le temps que j'étais encore là, puis il m'avait demandé... Je m'avais demandé qu'est-ce que Gary O'Sullivan fait de mieux que David Lemieux. Puis j'avais dit utiliser les médias sociaux. C'est un peu ça, mais en même temps, Vincent, est-ce qu'on peut. Si on est objectif et on regarde comment les fiches sont construites chez les poids lourds. Non, mais il n'y a rien de grave, là, tu sais, une inactivité de 9-10 mois. Chez les poids lourds, il n'y a rien de plus naturel que revenir avec un tune-up fight. On voit les combats que Joseph Joyce et Daniel Dubois font avant de s'affronter, ils ont un contrat, puis ils ont fait, on va chacun prendre un petit combat entre-temps pour se faire la main, puis là, ils notent des cruiserweight en 4-5 fois en 3 minutes, puis là, ils sont, le monde sont bien hypé là-dessus, tu sais, fait que pourquoi on en voudrait à Simon Kane quand ça semble être la norme à travers le monde? C'est pas tous des Andy Ruiz là, qui vont revenir direct contre Chris Areola parce qu'ils ont des montres à s'acheter, puis des autos, parce que là, Andy Ruiz, il s'est embourgeoisé comme Rocky dans Rocky 3. Fait que...
C'est ça, Andy Ruiz s'achète des montres, s'achète des voitures. Puis Simon Kane, lui, qu'est-ce qu'il s'achète? Il s'achète des camions pour son entreprise de déménagement. Ça, c'est tout à son avantage.
Simon Kane, le boxeur qui déménage et pas juste sur le ring.
C'est bon, ça, Laurent. Hey, écoute, je sais pas si tu as vu ça, là, Ziadinov.
Ouais, mais à partir du film, il avait l'air brûlé, puis il y en a qui disaient qu'il courait le marathon, il voulait pas échanger, il affrontait un adversaire, Vincent, qui avait son, ça c'est un adversaire qui avait son nom dans son prénom, Gassan Gazanov. Puis, comment ça fonctionnait, c'est que Eye of the Tiger pouvait pas envoyer aucun représentant là-bas, puis Ziadinov, il a dit, je suis en Russie avec mon entraîneur, est-ce que je peux faire un combat? Ils ont dit oui, mais on va quand même, tu sais, surveiller un peu le matchmaking. Ils ont approuvé l'adversaire qui semblait être un journéeman de qualité, là, qui avait, d'ailleurs, il avait affronté les deux adversaires de Beterbiev, tu sais, Fen Longmeng, que ça n'a pas fonctionné, puis Adam Den, le nouveau. C'est un gars, tu sais, qui affrontait l'élite, mais qui gagnait pas de ronde, puis Ziadinov a complètement manqué de cardio, a eu l'air de montrer ses limites. Mais là, Vincent, ça en fait beaucoup qu'on amène ici. On nous présente, puis là, on dit « Oh! Champion du monde! » écrit d'en face, lui, c'est réglé, là. Puis, un moment donné, ça floppe, tu sais. J'ai dit « N'est pas... » Tu connais l'expression? « N'est pas champion du monde qui veut. » Mais en voilà un autre qui a frappé un mur, mais là, reste à voir qu'est-ce qu'il va faire avec la défaite. Tu sais, si tu perds, tu
t'en prends... une sorte de mur. C'est un mur de briques, un mur de carton, un mur de gym.
Un mur, hein, frappe un plexiglas comme des restaurants, un peu. Là,
ça va être ça ralentit la course, mettons.
Hein?
Ça ralentit un petit peu la course.
C'est ça. Ça va être de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. J'imagine qu'il va avoir un meeting avec Marc Ramsey. Il peut toujours mettre ça sur le dos du fait que, tu sais, l'équipe Ramsey n'était pas là. Il travaillait avec son équipe russe qui effectue les plans de Ramsey. Mais là, on peut toujours jouer là-dessus. Parce que tu sais que Luc-Vincent Ouellet, lui, il a marié une Russe. Fait que Luc Vincent, il parle russe. Fait que lui, il s'occupe des boxeurs russes. Puis, comment il s'appelle? Sam 2D va s'occuper un peu plus des autres boxeurs. Vu que Sam, il parle français, anglais, espagnol. L'autre parle français, anglais, russe. Ça, c'est un autre petit truc que Marc Ramsey, il va chercher des gens qui parlent plein de langues pour faciliter le gymnase. Fait que ça va être de voir qu'est-ce qu'il fait avec ça. Ana Riva doit trouver ça dur ce matin. Je pense que c'était son dernier boxeur. Hein. C'était comme retiré de la boxe, mais à continuer un peu à aider... Je pense celui-là.
Ziadinov.
Fait que merci Vincent d'avoir été là.
Merci à toi.
C'est sûr que je te rappelle au prochain grand combat. Là, ça, c'est en octobre, je pense. Fait que d'ici là, continue ton beau travail.
Hey, on aura Yoka fin septembre, dans 20 jours exactement.
On a plein d'affaires surveillées. Faites-en pas.
On n'est pas mort.
Merci.
Bye-bye.
On reçoit, pour la deuxième fois, ça c'est de l'interne, j'ai oublié de peser sur record. Mais moi, je dis la vérité au public, j'ai jamais pesé. On reçoit Vincent Morin, et là, je refais toute mon introduction. Vincent, t'es le Guy Jutras des temps modernes pour moi, parce que quand on va sur BoxRec, Guy Jutras, boxeur, arbitre, juge, superviseur et inspecteur. Dans le fond, je te mets dans des grandes chaussures, là. Guy Jutras, c'est
pas mal.
Toi, tu as été boxeur, matchmaker, entraîneur, directeur des communications, commentateur, on t'a connu au 91-9, gérant, promoteur, journaliste, Eddie Mess, c'est quoi? Tu gérais un site internet?
Eddie Mess, en fait, c'est un journaliste web, tout simplement. Là, on mettait des choses en ligne sur le site. À l'époque, c'était le 98.5 Sport. Donc, je travaillais avec Jérémy Filosa. On s'occupait de mettre en ligne. En fait, lui, il faisait tout ce qui est radio. Nous, du côté web, on mettait les nouvelles en ligne.
OK. J'ai remarqué aussi que tu as quelques bacs universitaires. C'est ça que je t'ai dit tantôt. Kenny Chéri, surveille-toi, Kenny, mais il y a un gars qui court après toi pour devenir le boxeur le plus éduqué du Québec, même si tu es maintenant à Boston. Tu peux pas quitter le Québec comme ça. Tu as encore une partie du Québec en toi. Champion de kickboxing. Et là, on te reçoit hors série numéro 3. Mikael Zuski va affronter Ejiz Kavialoska dans une bulle à Las Vegas. Mm-hmm. Ma première question, les forces et les faiblesses de Kavialoska.
Ben, il n'y a pas de surprise du côté de Mean Machine, comme je l'expliquais un peu avant que tu ne pèses pas sur le bouton d'enregistrement. Je vais l'appeler Mean Machine parce que je peux vraiment pas prononcer son nom de famille. Je vais te laisser le prononcer. C'est un boxeur avec beaucoup d'expérience chez les amateurs. On a un double olympien. Donc, ça peut quand même donner une idée là, du nombre de combats et de compétitions amateurs qu'il a livré. Très puissant, très agressif, frappe en volume, chaque coup est pour faire mal. Donc, du côté de ses faiblesses, ben, il a été arrêté 5 fois chez les amateurs. Donc, puis chez les professionnels, il a quand même montré quelques fois, son menton a montré quelques signes de fragilité. Donc, du côté de Mikael, ça pourrait être une façon d'exploiter ça. Et il a été coupé à 5 reprises dans les combats chez les professionnels. Donc, il est prompt aux coupures. Du côté de Mikael, il va falloir justement exploiter ça. Dès qu'on voit, par exemple, une petite coupure sur un crochet de gauche, ben, faudrait exploiter le côté de la coupure comme ça. Donc, je te dirais que ses faiblesses, selon moi, c'est son menton suspect et le fait qu'il est prompt aux coupures, tout simplement. Donc, ça va être du côté de Mikael, ça va être à lui d'être agressif puis de faire respecter sa force de frappe. Faut se faire respecter dès le début du combat. Comme j'expliquais un peu à l'époque, je parlais avec des amis aussi là, de ce combat-là. Contre un gars expérimenté qui cogne dur, ben faut se faire respecter. Et on a pu voir ça dans le combat Fury contre Wilder. Tout simplement, personne pensait que Tyson Fury était pour faire reculer Deontay Wilder. Ben, la seule façon de battre Wilder, ben, c'était justement de faire reculer le cogneur. Je pense que Mikael devrait peut-être exploiter cet aspect-là, justement, de faire reculer Mean Machine comme ça.
Je suis content de t'avoir pour le côté un peu plus technique du combat. Moi, je veux savoir, j'ai ma question là. Tu parles de se faire respecter, mais comment Mikael pourrait comme gérer le risque de s'approcher assez pour le faire mal à Kavialoska, lui montrer qu'il peut lui faire mal, mais sans risquer de recevoir la grosse droite de l'autre bord parce qu'il frappe ce Kavialoska. Comment on gère ce risque-là de... On va dire, c'est un vieux cliché, mais il ne faut pas que Mikael échange coup pour coup avec le cogneur. Comment on arrive à se faire respecter tout en étant assez bon défensivement pour ne pas recevoir en retour? Tu veux donner, tu ne veux pas recevoir?
Mon entraîneur de l'époque s'appelait Laszlo Marien. Il m'expliquait qu'il y avait 3 zones dans un ring de boxe. Tu avais la zone sur le bord des cordes, tu avais la zone de transition entre les deux, il y avait le centre du ring. Quelle est, selon toi, la zone la plus dangereuse dans un ring de boxe?
Je dirais quand tu es dans les cadres, parce que ton adversaire a de la puissance, mais pas toi, tu es comme pris contre le cadre, non?
Erreur. La zone de transition. Donc, il faut être vraiment très loin ou très proche. Donc, du côté de Mikael, on est le plus grand des deux. Soit on se déplace vraiment de l'extérieur, on utilise le jab, ou on rentre complètement à l'intérieur et on utilise le gabarit, parce que Mikael Zuski... c'est le plus gros combattant des deux. Il est énorme pour un 147 livres. Là, on parle d'un gars de 170 livres qui descend à 147 livres. Mikael, chez les amateurs, il va lui à 152 livres, mais une machine à 141 livres. Donc, c'est simple. Soit on se déplace vraiment loin de la zone, de la zone dangereuse, de la zone 2. Donc, on ne veut pas mélanger avec lui. Ou on rentre complètement à l'intérieur et on fait un peu comme Fury a fait avec Wilder. Donc, on bouscule à l'intérieur, on tente de frapper, d'imposer son physique.
Mikael Zuski, quand il est revenu avec le groupe Yvon Michel, tu étais là comme directeur des communications. Je pense que tu étais là au moins 6 des 8 victoires de suite, là, peut-être même plus. Il en a affronté du monde suite à sa défaite. Mm-hmm. Moi, j'ai une question pour un point de vue un peu de l'investissement. Tu sais, amener des gars au casino, là. Vous avez amené des gars au casino. Amner Lopez au casino ou Aaron Herrera. Mais lui, il y a eu beaucoup d'argent quand même qui a été investi. Depuis le début, c'est un peu comme... c'est l'aboutissement, fin de semaine. Dans le fond, il y a un investissement pour préparer le boxeur, autant physiquement, mentalement, puis de le placer dans les classements. Il y a des coûts reliés à tout ça avec Mikael Zuski.
Bien, on parle de 8 victoires d'affilée. Donc, une aux États-Unis depuis sa défaite. Là, il y avait eu une victoire après sa première défaite contre Ponomarev. Mais avec Jim, c'est 7 victoires consécutives. Puis tu regardes le niveau des adversaires. Le premier adversaire est un gars avec une fiche en dentiste un peu, mais un gars vraiment dur. On voulait le tester, voir qu'est-ce qu'il y avait dans le réservoir. Il a livré la marchandise. On lui a amené des boxeurs d'expérience. On voulait ce qu'on appelle des baromètres, des gars expérimentés qui avaient été testés contre d'autres boxeurs solides. On a pu voir ça avec Abner Lopez, on a pu voir ça avec Aaron Herrera. Et avant ça, on l'a même envoyé à 154 livres contre Jésus de Macias. Puis ces gars-là vont permettre à Michael, vont lui amener cette expérience-là de le préparer contre un boxeur aussi dangereux que Mean Machine, un gars du top 10. Mais en l'amenant contre des baromètres comme ça, en l'amenant dans des guerres, tu sais, du côté de Zuski, quand on a affronté Macias à 154 livres, mais ça a été une expérience de se faire ébranler pour une première fois dans un combat. Il a démontré qu'il avait du cœur au ventre, qu'il a trouvé une façon d'envoyer Macias au tapis et de gagner le combat. Cette expérience-là lui a permis, après ça, d'affronter Lopez et d'être assez intelligent pour savoir quand, en étant ébranlé, pour mettre un genou au tapis. Et encore une fois, trouver une façon de gagner le combat. Donc, ces expériences-là qui ont des adversaires durables, des adversaires qui ont été testés, mais vont lui permettre d'être prêt pour un combat d'envergure comme ça.
Est-ce que tu crois, puis on entend souvent ça, tu sais, la boxe amateur, tu vois de tous les styles, puis c'est ces boxeurs-là qui peuvent faire les ajustements. Tu crois-tu que c'est son expérience amateur qui fait qu'il s'est ajusté contre Macias quand ça s'est mis à mal aller? Je pense que ma mémoire est bonne. C'est-tu fait de casser un mâchoire où il saignait beaucoup?
Fracture du nez.
Donc, Lopez est allé au tapis, s'est relevé, a gagné les rondes qui restaient. Mm-hmm. C'est plus dans le caractère du boxeur ou il y a beaucoup de l'expérience chez les amateurs?
Il y a un peu de tout, Michael, comme je t'expliquais, au-dessus de 150 combats amateurs, il a été au championnat du monde, il a battu un Cubain. C'est sûr qu'il a vu tous les styles, c'est sûr que ça a dû aider. Mais faut pas oublier qu'un combat de 3 ou 4 rounds avec Casse et Grosgan, ça va t'amener l'expérience stylistique, mais ça te permettra pas de te préparer pour un combat professionnel où tu te fais frapper avec des petits gants de 8 à 10 onces qui sont vraiment durs. Ça, tu l'as ou tu l'as pas. Puis Michael, il y a un cœur de lion, je pense qu'il l'a prouvé. T'sais, ça, tu l'as en toi ou tu l'as pas. T'sais, une fois que tu te fais blesser, il y a des gars qui vont abandonner, il y a des gars qui vont juste chercher à survivre, puis il y en a d'autres comme Michael qui vont mordre dans le mort-piste puis qui vont décider vraiment d'y aller à fond la caisse puis de trouver une solution pour gagner le combat. Michael a prouvé qu'il y avait ça. Mais il a prouvé aussi dans le combat avec Lopez qu'il y avait aussi un cerveau qui était très intelligent puis qui pouvait trouver une façon sans juste échanger, sans juste penser avec ses couilles et son ego, mais il a trouvé une façon, OK, je vais mettre un genou au sol, je vais laisser couler le temps, je vais prendre le temps de récupérer comme il faut. Puis je vais revenir le prochain round pour trouver une solution. Et c'est ce qu'il a fait. Puis ces expériences-là, tu peux pas acheter ça. Tu peux pas arriver dans le niveau international sans avoir fait ces expériences-là. Quand on arrive avec toutes les victoires faciles, par exemple, on arrive dans le top 10 mondial avec une fiche, par exemple, de 15 victoires, 15 par KO, tu as juste eu des KO au deuxième round, tu seras pas prêt à une bagarre comme ça. Donc, je pense que ces expériences-là au Casino de Montréal ou encore avec Aaron Herrera où ce que Michael avait complètement dominé Herrera, on s'attendait pas à ce qu'Herrera donne une soirée facile à Michael. C'est un gars robuste qui donnait des guerres à tout le monde. On s'attendait à ce que le combat soit spectaculaire puis Michael a vraiment joué avec lui. Donc, par bout, Michael, il a démontré des belles choses puis une belle amélioration aussi. Donc, moi, je m'attends à une bonne performance de Michael contre Mean Machine. Puis, Mean Machine, il revient d'une défaite. Lui aussi, va être affamé. Là. Il vient de perdre sa fiche immaculée, une première défaite en carrière. Il a quand même affronté Terence Crawford. Donc, je m'attends à tout un feu d'artifice pour ce combat-là.
Qu'est-ce que tu as vu, justement, dans le combat de Terence Crawford ou même dans son match nul contre Sugar Ray Robinson là, ça finit nul. Qu'est-ce que Sugar Ray Robinson et Terence Crawford ont bien fait pour embêter Ilgis Kavialoska que Michael Zuski pourrait tenter de reproduire?
C'était deux styles différents. Du côté de...
Du gaucher.
Tourner droitier-gaucher, mais c'est pas un aspect que Michael va faire dans ce combat-là. Du côté de Crawford, ben, il a bien géré sa distance, puis il s'est fait faire mal, Crawford, dans ce combat-là. Mais il a gardé son calme, puis il a trouvé une façon de faire mal, justement, à Mean Machine. Puis c'est ça que Michael va falloir qu'il fasse. Il va falloir qu'il se fasse respecter, puis qu'il fasse mal à Mean Machine. Et c'est possible. Son menton n'est pas à toute épreuve, Mean Machine. J'ai expliqué, il s'est fait arrêter 5 fois chez les amateurs. Il a été au tapis 3 fois avec Crawford. Il s'est fait ébranler souvent. Puis surtout, il coupe facilement. Donc, c'est quelque chose que Michael va devoir exploiter. C'est un gros gars, Michael, à 147 livres. Il va falloir faire attention à son menton. C'est sûr et certain que si on mélange avec ce gars-là, va falloir avoir le menton bien rentré, va falloir garder les mains hautes, va falloir travailler à l'intérieur. On peut le blesser au corps aussi, mais va falloir le bousculer. Et le combat précédent, tant qu'à moi, avant Crawford, j'avais mis une machine gagnante. On a donné un match nul là à Robinson, mais ESPN donnait le combat 98-92 avec mis une machine. Donc, on peut se déplacer avec lui. Puis encore une fois, on ne sait pas la dimension du ring là, à Las Vegas. Si c'est un grand ring, Michael pourrait avoir plus de facilité à se déplacer. Mais si c'est un petit ring, c'est sûr et certain qu'il va falloir qu'il soit agressif. Ça va être la seule façon de gagner ce combat-là. Ça va être d'être agressif et de faire reculer un cogneur comme une machine.
Quand je suis assis au coin du métro, là, on descend des pichets, on mange des ailes de poulet, puis on jase de boxe. Puis la chose qui revient souvent, c'est que son père... le laissait pas prendre des combats difficiles. Donc ça, c'est comme une légende urbaine qui court. Toi, tu as travaillé avec comme matchmaker. Tu peux-tu nous dire ce qu'il y en est vraiment avec Michael Zuski puis les propositions de combat?
J'ai entendu ça aussi, puis tu sais, honnêtement, c'est pas vrai. Michael a jamais refusé tout adversaire que j'ai proposé à Michael. Il l'a toujours accepté. Il a analysé, puis il a regardé le vidéo, puis il nous a jamais refusé un adversaire. Donc, c'est pas vrai, ça. Quand on a amené Macias à 154 livres, c'est un combat qu'il est absolument pas obligé de prendre. Il a voulu se tester, il l'a pris. Tu sais, des Aaron Herrera, même Abner Lopez, ils n'étaient pas obligés de prendre ce combat-là. On aurait pu prendre un Argentin bien plus facile, puis monter, lui donner un petit combat facile, mais ça, c'était pas ce que Michael voulait. Michael voulait toujours un challenge. Puis les gars qu'il a affrontés lui ont permis justement de se préparer pour ce niveau-là. Mais ça fait longtemps qu'il recherchait une opportunité comme ça, Michael. Il voulait un combat d'envergure, puis c'est ce qu'il y a avec Mean Machine. Tu sais, Mean Machine, Costio l'a refusé.
Oui, c'est vrai que ça, on peut revenir à ça, le fameux contrat de 3 combats qui commence, je pense, qui finissait avec Kavialoska. Où tu vois Kavialoska dans la division des 147 livres, une division qui est pactée, là, juste des gars qui sont pas champions du monde. Je peux te nommer Keith Thurman, Sean Porter, Kavialoska. Tu le vois où, Mean Machine? Définitivement un top 10 ou même un
top 10? C'est un vrai top 10, tu sais, grosse fiche, il a battu des gars solides, là. Tu sais, on parlait de Jamie Herrera, tu sais, qui a donné déjà un match nul avec Steven Butler. Bon, il est en peu au deuxième round. Jeremy Bryan, qui a fait une décision majoritaire avec Michael, un gars, tu sais, solide, qui est un gaucher compliqué. Bon, mais il l'a arrêté, je pense, au troisième round. Donc, tu sais, c'est un gars solide, ce que j'appelle un gatekeeper. C'est un vrai top 10 mondial. Donc, si tu bats que Mean Machine, même top 10, même peut-être même top 5, entre top 5 et top 10, tu bats Mean Machine, t'es un vrai top 10 à 147 livres. Il n'y a pas de secret. C'est un gars avec un gros bagage amateur. C'est un gars solide chez les professionnels qui cogne dur. Puis, tu sais, une victoire sur Mean Machine, ça te permet là, d'aller chercher un gros combat contre un champion ou un vrai aspirant, que ce soit un Sean Porter, un Danny Garcia. Tu bats Mean Machine, tu mérites un gros combat comme ça.
Ben, s'il bat Mean Machine, c'est directement en championnat du monde après.
Je crois que oui, honnêtement. Ou un gros combat payant. Là, on ne donnera peut-être pas un Manny Pacquiao à Michael Zuski, mais on peut un Terence Crawford qui cherche une défense, ça peut être une maudite bonne option. Un combat contre Crawford, tu refuses pas ça, là, c'est une opportunité. Mais 147 livres, c'est tellement une catégorie intéressante. Tu regardes la qualité des boxeurs, là, des Danny Garcia, des Errol Spence, même si c'est de l'autre côté des réseaux de télé.
Comment tu vois la suite des choses advenant une victoire? On sait, tout de suite, on est en championnat. Advenant une défaite, non, on parlera pas de défaite, on est positif, mais c'est toujours dans la façon de perdre. Pas advenant une défaite, mais si jamais Michael Zuski perd, est-ce que tu penses que c'est déjà la fin des émissions ou ça, tout est dans la façon?
Tout est dans la performance, tu sais. C'est sûr, tu tombes sur le premier coup de poing. Là, on aurait un problème. Mais je pense pas que c'est ce qui va arriver. Michael, il est vraiment pris. Comme j'expliquais, il est sur une séquence de 8 victoires, puis dont 7 à son arrivée au Québec. Les adversaires sont améliorés de façon de façon exponentielle. Son dernier adversaire était vraiment pas mauvais, David, là. Puis il l'a arrêté. Il a été vraiment convaincant. Il est en santé. Il a eu le temps de guérir sa main. Honnêtement, je pense qu'il va vraiment bien faire. Puis T'sais, comme j'expliquais, tout est dans mesure. T'sais, par exemple, s'il perd une décision vraiment serrée ou qu'il fait match nul ou qu'il donne une performance super spectaculaire, tu peux être certain que Top Rank va le rappeler. Là. 147 livres, c'est tellement une catégorie intéressante. Là. Il y a tellement de combats intéressants qui peuvent se faire là. Donc, il suffit d'une belle performance. C'est exactement ça. Il faut une belle performance. Puis Michael, ça fait longtemps qu'il attend cette opportunité-là. Puis je crois qu'il va livrer une vraie belle performance. Je m'attends vraiment à un feu d'artifice.
Une chance, Vincent, qu'on n'est pas en direct à TVA. Plein de rebondissements que je vais faire d'ici au montage. On était rendu en conclusion. Est-ce que tu t'aventures sur une prédiction ou sinon, je te laisse gérer tout ça?
Moi, honnêtement, je m'attends à une performance de Michael. Michael, ce combat-là va être un feu d'artifice. Peu importe ce qui va se passer, je pense que Michael va donner une bonne performance. Je ne me risquerai pas à une prédiction, mais mon cœur est avec Michael, c'est sûr et certain. Je le connais depuis très, très, très longtemps. Là. À l'époque, quand je boxais chez les amateurs, ben, on boxait sur les mêmes cartes. Je me rappelle, il y avait 10, 11, 12 ans. C'était le petit gars de la relève qui boxait depuis toujours. C'est un gars loyal qui a toujours été entraîné par son père depuis qu'il est chez les amateurs. Qui restait avec lui chez les pros, c'est un gars loyal, c'est une bonne personne, c'est un bon père de famille, donc je suis avec lui à 100%. C'est drôle parce que le monde de la boxe au Québec, c'est un petit monde. Puis, quand j'ai gagné mon championnat du Québec à l'époque, mais c'était lui qui était dans le coin avec le père Zuski. J'avais affronté un Jonathan Lamy à l'époque du club de boxe au Cap de la Madeleine. C'est le club de boxe éclos qui n'existe même plus maintenant. Michael va être dans un dur combat, dans son probablement son plus dur combat en carrière. Tant qu'à moi, Mean Machine est supérieur à Ponomarev de beaucoup. Mais Michael est prêt. Présentement, il est dans un pic. Il est vraiment au top de sa condition physique. Il est sur une lancée de 8 victoires. Il n'y a pas de blessure. Il est confiant. Il s'est entraîné. Il a attendu cette opportunité-là. Puis il a faim. Donc, quand un gars a faim comme ça, mais je vois pas ce qui peut mal aller. T'sais, du côté de Mean Machine, lui aussi, il a faim. Lui aussi, il revient d'une défaite. Mais je pense que c'est le temps de Michael. Donc, il va falloir faire attention à mi-distance face à un gars solide comme Mean Machine. Mais c'est un robot, le gars. Mais il est cassable. Donc, on peut le couper. On peut l'envoyer au tapis. C'est possible. Il y a des faiblesses. C'est un homme. Il y a des faiblesses.
J'aime ça que tu aies parlé de loyauté. C'est ce qui revient le plus avec Michael Zuski. Tu sais, s'est fait souvent chialer parce que son père était entraîneur, puis il a bien répondu à ça en disant « Écoute, mon père, il fait le tour des États-Unis, il va chercher plein d'informations, il parle à plein de monde, il continue à s'améliorer, il a été loyal à groupe Yvon Michel, je pense qu'ils ont une entente sur une poignée de main, puis jamais il s'est laissé tenter, il est droit comme ça. » Je pose toujours une question en dehors de mon sujet principal. T'as fait des galas présentement aux États-Unis, t'es un peu partout, là. J'ai vu que tu voyais souvent dans les aéroports. Comment ça se passe? Je veux dire, moi, juste savoir, ça fait-tu mal, là, le bâton dans le fond du nez, là?
C'est pas agréable, honnêtement, là. Tu sais, ça te chatouille jusque dans le fond du cerveau. C'est pas agréable. Mais, écoute, moi, présentement, j'ai, avec mes boxeurs, j'ai été une fois en Floride, j'ai été une fois au New Hampshire. Deux commissions athlétiques complètement différentes. Du côté de la Floride, c'est beaucoup de bureaucratie en ligne. Du côté des médicaux. Mais du côté du New Hampshire, là, c'est du côté médical, là, je vous le dis, on est des professionnels au Québec. La Régie des alcools, des courses et des jeux, c'est une commission athlétique de calibre mondial. Au New Hampshire, là, c'est des bonhommes d'à peu près 97 ans qui ont pas regardé les bandages dans les mains. Ils regardaient pas ce qu'on mettait dans les gants. Écoute, il n'y a même pas eu de tests médicaux. Là. Honnêtement, c'est du n'importe quoi. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Floride est un peu plus rigoureux, je te dirais. Donc, on regardait ce qu'on buvait. Donc, tout ce qui était alloué, nécessairement, c'était de l'eau, du Gatorade. Donc, on surveillait tout, on nous surveillait partout. C'était correct. Du côté du New Hampshire, je vous le dis, là, j'ai jamais vu de quoi comme ça. Là. C'était n'importe quoi. Là. Nous, je gardais un œil sur l'adversaire pour voir ce qu'il allait mettre dans les gants. Comme ça, je me promenais d'un vestiaire à l'autre pour regarder. Mais je vous le dis, là, on avait les gants avant. On aurait pu taper les gants dans les murs ou enlever le padding. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Donc,
est-ce que le New Hampshire gagnerait à faire un petit stage chez Michel Hamelin?
Ah, définitivement. On est loin, hein? Surtout renouvelé peut-être avec du 109 parce qu'honnêtement, là, j'en ai vu des choses en boxe professionnelle, mais ça, là, écoute, puis même des scènes tristes, là, j'avais un gars de 57 défaites là, qui devait avoir 41 ans, qui faisait son bandage dans le coin tout seul. On le rushait pour l'envoyer à l'abattoir dans le ring contre un petit jeune de 19 ans. Il n'avait pas fini ses bandages. Il était tout croche. Tout était rushé.
Des fois, c'est sévère la régie au Québec, mais il faut quand même.
Il y a une raison pour ça. Puis, aux États-Unis, ce que j'ai remarqué dans plusieurs commissions athlétiques, c'est qu'on ne demande pratiquement rien. T'sais, ici au Québec, pour boxer professionnel, on demande généralement un minimum de 30 combats amateurs avec 50 % de défaites. Des fois, on autorise des boxeurs qui ont moins d'expérience que ça. C'était le cas d'Alexandre Chocot, notamment, de certains boxeurs comme ça. Mais il y a quand même une évaluation de la part de la régie. C'est pas inconscient.
Il y a un contrôle aussi de l'adversaire, si tu parles.
Exactement. Du côté ici, Michel Hamelin a instauré une règle qui dit que dans les 5 derniers affrontements, il faut au moins que le boxeur ait gagné 2 de ses 5 derniers affrontements. Et tu peux pas si tu viens de l'extérieur, tu peux pas faire ton début pro au Québec parce qu'on connaît pas ton bagage. Là-bas, au New Hampshire, là, tu présentes un permis de conduire, puis tu peux boxer professionnel. C'est un peu n'importe quoi. Tu avais des gars là-dessus qui avaient 77 défaites, 57 défaites. Des gars qui n'avaient pas d'affaires là du tout.
Je sais pas si tu fais comme moi. Moi, j'ai une fois par semaine, je regarde, mettons, les 10 prochains jours de Box Rec, puis c'est sûr, tu l'as remarqué, en Angleterre, il y a des gars-là où c'est...
Oui, ça, c'est une autre chose, des journeymen avec 100 défaites.
C'est 8 débuts pro d'un bord, puis de l'autre côté, c'est du 8, 850, 722, puis ça
n'a aucun bon sens. Les gars-là COVID, j'ai pu voir ça, tu sais, le A-side puis le B-side. Puis souvent, dans le A-side, ben, la seule façon que les promoteurs peuvent faire de l'argent, présentement, parce qu'il n'y a pas de public, c'est soit par la vente de pay-per-view ou parce que le manager, l'agent, va acheter un spot à son fighter. Donc, quand tu achètes un spot à ton fighter, ben, tu vas vouloir un combat cheap, un combat facile, puis un combat qui ne coûtera pas grand-chose. Comme par exemple, en Floride, là, j'étais dans le coin B-side, j'avais un de mes fighters, un gars qui venait du MMA, qui allait faire son début professionnel en boxe, mais finalement, je me suis ramassé à être dans le coin de 4 fighters là, sur les 6. Là. Il n'y avait personne qui avait un entraîneur, personne pour faire les mains.
Ah ouais?
C'était épouvantable. Je te le dis, c'était épouvantable. Il y avait un gars là-dessus, je suis en train de préparer mon boxeur pour faire le réchauffer. Il y a un gars de Caroline du Nord, il avait ses shorts de boxe, il ne savait pas comment lancer un coup de poing. C'était épouvantable. Il est arrivé dans le vestiaire, il a effondré, il s'est mis à vomir. C'était effrayant, honnêtement, c'était vraiment effrayant. Là. Ce gars-là ne devrait jamais boxer.
T'as pas déjà fait vomir un adversaire sur le ring, toi?
Ah, ça, c'est un autre. Ça, c'est une autre circonstance.
Merci d'avoir été là. C'est sûr qu'on surveille ça. Écoute, nous autres, c'est comme un petit Super Bowl, hein, quand on se lève un samedi matin, puis le soir, on a un Zuski qui vient le score. On va être énervé toute la semaine. On va faire nos scénarios dans notre tête.
Écoute, ça c'est combat. C'est intéressant. Écoute, le 12 septembre, je pense que ça va amener quelque chose de différent. Dernier gros combat qu'on a eu, ben, Ryder. Une soirée difficile avec Joe Smith. Je pense qu'il n'a pas démontré 100% de ses capacités. Je ne sais pas s'il est rendu à la fin du rouleau. C'est un gars que j'apprécie énormément, mm-hmm. qui est ultra talentueux. Je crois que Michael, présentement, il est à un autre niveau. Tu sais, si Elada est peut-être un peu vers la fin de sa carrière, je pense que Michael, présentement, est à son pic. Donc, les deux sont pas au même niveau de leur carrière présentement. Je pense que Michael est prêt à livrer la performance de sa carrière. Si Elada n'avait pas faim dans ce combat-là, je pense que Michael est vraiment affamé. Donc, je pense que c'est un combat très intéressant.
En plus, ça pourrait pas arriver à une gagne, ça ne peut pas arriver à une meilleure personne. T'sais, s'il y en
non,
a un
non.
qui mériterait d'être mis à l'avant-scène, moi, je veux dire même quasiment au même niveau qu'un Luciane Bouté ou que Marie-Ève Dicker a réussi à. T'sais, c'est plus des boxeurs, c'est des personnages de la vie publique québécoise. Maintenant, non. Michael mériterait d'être élevé à ce niveau-là parce que c'est tellement un bon garçon.
Il est arrivé avec Michael, c'est qu'il a débuté sa carrière avec Top Rank. Parce que il a débuté avec Golden Boy et après il est allé avec Top Rank. Donc, tu sais, il a fait le tour quand même là, des grands promoteurs américains. Tu sais, Las Vegas l'intimidera pas, là. Faut savoir ça samedi. Il a boxé plusieurs fois à Las Vegas. C'est pas nouveau pour lui.
Mais Pavialoska, je pense qu'il y a peut-être 5 sous-cartes de Michael Zuski. On peut dire ça comme ça. Il était classé plus bas.
Mais les gens au Québec, je te dirais, la masse, c'est pas les amateurs de boxe. Mais la masse même qui connaissent, tu sais, les sportifs de salon, un peu les gens qui regardent le sport en général connaissent pas Michael Zuski. Donc, je pense que ce genre de performance-là, ce genre de gros combat-là, va peut-être permettre justement à Michael Zuski de se faire connaître.
C'est certain que s'il fait une grosse performance, en plus, RDS va y servir comparativement à parfois c'est au Canal Indigo. Donc, beaucoup plus de monde à l'écoute. Merci d'avoir été là. Puis tu vois, on aurait pu parler pendant des heures. On l'a quasiment fait à cause de l'oubli de poser sur le piton. Mais ce qu'on va faire, c'est sûr que je vais te recevoir sais, dans les prochaines semaines. Là, je travaille beaucoup, mais j'ai des idées avec toi. Tu sais, juste mon fameux spécial matchmaking, on va faire ça. On a bien de la jasette, puis on va mettre ça en audio bientôt. Merci d'avoir été là, puis à la prochaine.
Ça fait plaisir, mon ami.
Ouais, il y a une ou deux fois dans ce magnifique épisode où mon montage est un peu louche. Les gens de radio, vous allez vous en rendre compte. Les autres à la maison, peut-être un peu moins. Dans les prochaines semaines, je vais acheter 4 micros USB que je vais pouvoir connecter sur Zoom pour améliorer les entrevues. Je vais laisser un micro à Jean-Philippe. Je vais donner un micro probablement à Kenny Chéri. Mes invités favoris, Vincent Morin, au pays, j'enverrai un micro à Boston avec Post Canada. Ça va bien coûter pas très cher et arriver dans des plus brefs délais. Je viens de me rappeler que je travaillais au poste. Faut que je fasse de la bonne publicité. Je vais vous demander une chose à la maison. Le podcast va rester gratuit éternellement. Je vous demanderai jamais de Patreon parce que je suis déjà riche. J'ai pas besoin de votre argent. Mais j'aimerais, en revanche, que vous donniez 5 étoiles et que vous partagiez. J'ai appris que, dans le fond, les 5 étoiles, c'est ça qui fait le référencement puis qui fait que iTunes pourrait me mettre dans les pages de suggestions. Fait que j'ai besoin de 5 étoiles, j'ai besoin de commentaires pour être encore plus vu, plus que je vais être vu et lu et écouté, plus que ben, ça me permet de faire du contenu de qualité. Merci d'avoir été là, j'espère que vous avez apprécié. Le combat a lieu samedi le 12 septembre à RDS ou au 10 719 rue La Jeunesse à Montréal, au resto-bar Le Coin du métro.